En ce 21 octobre 1996, c'est la fête de Saint Viateur. Saint Viateur, ce n'est pas le fondateur des clercs de Saint Viateur, c'est le nom de ce saint qui a été choisi, qui a vécu il y a très longtemps, au tout début de l'Église, et qui s'est fait même ermite dans le désert de Cété avec son évêque, chose étrange. C'est un saint très très intéressant, c'est un jeune saint fascinant, qui vaut la peine d'être connu. Ici, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint Viateur aurait vécu entre 360 et 390. Les dates ne sont pas précises, exactes, mais c'est à peu près sûr. C'est tout à fait vraisemblable. Elles sont d'ailleurs dans la tradition qui a été confirmée par les grands spécialistes des vies des saints, les bonandistes. Quoi qu'il en soit, il est certain... C'est ce que disent les spécialistes. Saint Viateur a vécu dans la seconde moitié du IVe siècle. Il a participé à cette époque de gloire et de péril. Une époque difficile où l'Église s'épanouit dans la liberté, enfin, après de longues persécutions. Mais elle est toujours en but à un paganisme qui est présent partout. L'Église est entrée dans une phase plutôt heureuse pour son organisation, son progrès. Et c'est là que se situe notre Saint Viateur. Parce que se constitue à ce moment-là, dans l'Église, la liturgie catholique, avec toute sa splendeur. Et lui, Saint Viateur, sera l'un des principaux jeunes lecteurs de cette Église. Un lecteur, oui, c'est quelqu'un qui lit officiellement, à haute voix, durant la liturgie, que ce soit en pleine nuit ou durant la journée, et plus particulièrement à la messe, bien qu'il lit avec beaucoup de conviction, de profondeur. Le culte peut se pratiquer donc sans entrave, à peu près au grand jour, à ce moment-là. Puis, il y a de plus en plus de clercs, de prêtres. Les fidèles se montrent de plus en plus généreux. Les empereurs exercent des largesses énormes. Et tout ça, ça ne manque pas d'ajouter encore à la splendeur, à la solennité des offices. Dans la Gaule, où le christianisme s'est déjà implanté, la France d'aujourd'hui, quoi. Eh bien, on voit s'élever des basiliques magnifiques, et puis, sous les voûtes de ces grandes basiliques, ces grandes églises, il y a énormément de processions superbes, des assemblées qui fascinent les jeunes. Et parmi les jeunes clercs, les plus jeunes, là, se trouve Saint Viateur, qui va passer les années de sa jeunesse à l'ombre mystérieuse et sacrée du beau temple de Lyon. Oui, de Lyon, dans le sud de la France. Lyon, qui est considéré en France, évidemment, comme la deuxième ville française du monde. Mais on commence à comprendre que ce serait peut-être Montréal, la deuxième ville française du monde, et Lyon, la troisième. Mais Lyon est en pleine expansion actuellement, n'est-ce pas? Chacun sait qu'elle est une ville moderne et progressive. Mais à cette époque, c'était une petite ville. Et vraisemblablement, il est né, lui, à Lyon. Il y a passé à coup sûr la majeure partie de son existence avant de partir pour l'Égypte avec son évêque. Le christianisme y a été introduit à Lyon par Saint Potin. Je vous en avais déjà un peu parlé, qui était originaire de Smyrne. Encore un autre originaire de Smyrne. Ça arrive souvent à cette époque que les grands saints viennent de cette ville. Et cet évêque, Saint Potin, avait été disciple de Saint Polycarpe, dont je vous ai encore parlé, et qu'il a été lui-même, comme Saint Potin, près de l'apôtre Saint Jean. En 174, l'année 174, l'empereur Marc Aurèle avait donné l'ordre d'exterminer tous les chrétiens, et ce fameux Potin, l'évêque Potin, avait subi le martyr. Avec Sainte Blandine, mon Dieu, tout le monde connaît ça, ceux qui écoutent et qui étudient l'histoire ancienne de l'Église. J'y reviendrai un jour. Durant la persécution d'un autre empereur, Septime Sévère, il y a eu Saint Irénée, dont je vous ai déjà parlé, je vous le rappelle, qui avait été tué en compagnie de milliers de chrétiens. Et c'est Saint Irénée qui le premier a pris le titre d'archevêque de Lyon, et c'est sous son administration que l'Église a eu l'honneur d'être désignée sous le nom de primatial des Gaules. Nous, notre primat est à Québec, eux, le primat en France est à Lyon. La ville de Lyon était subdivisée en deux populations, une population païenne puis une population chrétienne. Il y avait des divinités très curieuses. Il y avait la divinité Cybèle. Oui, Cybèle, C-Y-B-E, accent grave, elle, Cybèle, la mère des dieux, qui restait toujours populaire. Puis il y avait Mitra, puis il y avait le Tourobol, un étrange, et, c'est une espèce de baptême de sang qu'on pratiquait. On arrosait les prêtres, les fidèles, de sang d'un bœuf immolé en victime d'expiation. C'est une pratique qui touchait à la barbarie, finalement. C'était étrange. Il y avait donc là tout ce qu'il fallait pour entraîner la jeunesse à l'époque. Ça les attirait, ces cultes, comme certains cultes étranges aujourd'hui en attirent quelques-uns. Mais un incident politique va bouleverser la population de Lyon au moment où Viateur va rentrer dans la vie. On sait pas trop ce qui s'est passé de façon précise, mais on sait que il est vraisemblable que le vieil évêque de Lyon a été molesté dans ces circonstances. Et puis, il a été troublé. Il s'appelait, donc, comme je vous ai dit, Irénée, puis il a été, finalement, tellement troublé qu'il en est mort. Et dans le temps, bien, c'était le peuple qui s'unissait au clergé pour élire l'évêque. Et on a choisi Justus, prêtre de l'église de Vienne. Vienne, c'est une petite ville au sud de Lyon, sur le Rhône. Il y en est souvent question de Vienne, parce que c'est une ville importante dans le temps. Alors, on a choisi Justus, ou Justus, qui a gouverné le diocèse pendant plus de 30 ans, de 350 à 381. Et un peu comme le cardinal Léger, ici à Montréal, il a décidé de partir, parce que Justus a eu à soutenir la lutte contre Julien l'Apostat, qui a essayé de restaurer le paganisme. Puis, il voulait aussi restaurer, il est obligé aussi de lutter, Justus, contre la fameuse hérésie arienne qui revient toujours. On ne reconnaît pas la divinité du Christ. Alors, autant qu'on peut en juger, dit un chroniqueur de l'époque, qui connaissait très très bien ce qui se passait et qui a très bien écrit ce qui se passait, ce ne fut pas Justus un prélat ardent et militant. Un peu dans le genre, disons, du cardinal Grégoire, quoi. Il n'était pas comme Saint-Hilaire de Poitiers. C'était un doux Justus. C'était un modeste, avant tout charitable et miséricordieux, dit-on, pour le plus grand bien des fidèles. Et voilà que cet homme de Dieu qui va être le guide, puis le père et le modèle de Viateur, c'est lui. Et la vie de Saint-Viateur se comprendrait pas si elle était séparée de ce Saint-Évêque. Doux et modeste. Une des caractéristiques même de sa sainteté, de Saint-Viateur, ça a été son attachement inaltérable à son évêque. Le nom de Viateur, Viator en latin, ça signifie, comme chacun sait, je pense, voyageur, hein, messager. En tout cas, il s'est montré un excellent messager pour ce qui est de la parole de Dieu. Il était aussi un voyageur, puisqu'il est parti de Lyon pour se rendre jusqu'en Égypte. Son nom latin, donc, de Viator, fait supposer qu'il appartenait à une famille romaine. Le latin, c'était la langue usuelle de ces familles-là à Lyon depuis le IIe siècle. Puis, il n'y a aucun doute que ses talents, effet de ses parents, tous ces dons-là, la langue latine, certains succès, ses parents étaient de fervent chrétien, puis on pense aussi on a, pour ainsi dire, les preuves, que puisqu'il a reçu une bonne éducation, puis une orientation précoce de sa vie vers le service de l'autel, c'était signe que ses parents appartenaient à une famille à l'aise. Mais peu importe, du fait que Viateur ait trouvé le moyen de s'instruire, on peut conclure donc que tout ça, mais on peut conclure surtout qu'il a été marqué par la formation chrétienne qu'on lui a donnée. Il a atteint l'âge de lire, son père l'a confié à des maîtres qui étaient capables de lui donner une bonne éducation. Et puis à l'époque, il y avait deux sortes d'écoles. Il y avait des écoles municipales à Lyon qui étaient tenues par des laïcs, là. Puis il y avait une école qui était attachée à la cathédrale, on pourrait dire l'école confessionnelle, où l'on recevait surtout des enfants qui se destinaient à la carrière proprement ecclésiastique. Et dans toutes les écoles, d'ailleurs, si les maîtres n'avaient pas toujours le même esprit, les procédés d'enseignement, puis les méthodes pédagogiques se ressemblaient. Et partout, on employait le latin, la langue officielle, mais courante à Lyon, c'est le latin. C'est pas le grand latin classique, mais en tous les cas, c'est un latin populaire et efficace. Et les élèves apprennent, à cette époque, généralement, l'alphabet. Je le signale parce que c'est intéressant, avec des lettres de bois ou d'ivoire. Et comme ses camarades, bien, le jeune aviateur vient à l'école, il porte dans une espèce de boîte ou une cassette en forme cylindrique des jetons pour compter. Il porte des tablettes de bois enduites de cire, parfois de la craie, du plâtre, sur lesquelles le maître, lui, à cette époque-là, guidait la main du jeune avec un stylet ou un poinçon pour lui enseigner à écrire. Et plus tard, mais ça va être à l'encre qu'il va écrire sur le papyrus et le parchemin au moyen d'un roseau taillé en pointe et fendu à l'extrémité. Donc, il va se familiariser, viateur, avec la lecture, les éléments du calcul aussi, en suivant le procédé, puis la répétition indéfinie des mêmes choses par l'ensemble des élèves. Et beaucoup se contentaient d'une instruction élémentaire, mais ceux qui pouvaient continuer leurs études passent à 12 ou 13 ans de l'école primaire chez les grammaticus, et l'on verra là ce qui va faire de lui un lecteur très compétent et finalement un adepte de la parole de Dieu et un saint. Le cours secondaire qu'a suivi Saint-Viateur le préparait à devenir lecteur. Et la chose va de soi, à l'époque, on exigeait des lecteurs une instruction beaucoup plus étendue que celle, évidemment, des portiers. Oui, il y avait des portiers, des acolytes, ceux qui portent, évidemment, les flambeaux et qui apportent tout ce qu'il faut pour le service. Puis, les exorcistes aussi, car il y avait des exorcistes. Mais à cause de leur fonction principale, mais les lecteurs étaient formés tout d'abord à l'art, quoi, de bien lire. Il y avait un grand respect pour la parole divine, comme on l'a aujourd'hui quand on porte solennellement en procession dans nos églises le lectionnaire, c'est-à-dire le livre dans lequel on va lire la parole de Dieu, particulièrement l'Évangile. Et déjà, Saint Paul recommandait, on s'en souvient, à Timothée, il disait, Saint Paul, appliquez-vous à la lecture, à l'exhortation et à l'instruction, et méditez ces choses, et soyez-en toujours occupés, afin que votre avancement soit connu de tous, et persévérez dans ces exercices, car en agissant de la sorte, vous vous sauverez vous-même et ceux qui vous écoutent, comme quoi on doit lire avec conviction et avec connaissance. Si on n'en a pas le talent, mieux vaut faire autre chose et laisser la place à quelqu'un qui lit mieux, afin que la parole soit vraiment transmise. Et ça supposait pleine intelligence du texte, pour le comprendre, le texte. Et la plus grande difficulté pour le lecteur, dit-on, provenait de ce que la ponctuation était alors à peu près inexistante. Tous les mots se suivaient les uns les autres, parce que les mots n'étaient pas séparés dans les manuscrits. Ce n'est venu que beaucoup plus tard, parce qu'on économisait sur les manuscrits, on voulait économiser sur le vélin qui coûtait très cher. Et sans rien négliger donc de la culture générale dont il devait faire preuve, bien le lecteur devait se préparer directement à ses fonctions. Or, il copiait le lectionnaire. Puis il y avait le passionnaire, c'était la collection des actes des martyrs. Il y avait le petit bénédictionnaire qui comprenait les formules de bénédiction. Puis il y avait le psautier qu'ils apprenaient, pour ainsi dire, par cœur. Et les lecteurs étudiaient encore les pères de l'Église, parce que tout ça, il fallait le lire aussi durant les offices nocturnes. Et puis, il devait se connaître la Bible comme il faut, les homélies qui avaient été retenues, les ouvrages de controverse et d'apologétique, afin d'éviter les mauvaises doctrines et les hérésies. C'est l'auteur de l'École cathédrale de Lyon, d'un ouvrage très recherché, après avoir prouvé l'existence de cette école de lecteurs dès le IVe siècle, il écrit « Si l'histoire a conservé les noms de quelques disciples, eh bien, nous pouvons saluer Saint Viateur, lecteur de l'église de Lyon. » Y a-t-il une témérité à penser que Viateur, qui avait été appelé par un écrivain du temps, Adon, devienne un très saint jeune homme, était élevé et instruit parmi d'autres clercs sous le regard et sans doute sous les soins de son évêque Saint-Just. En cet âge de piété simple, Modeste, le fils de Lecter, n'était pas seulement un degré de passage pour monter au sacerdoce, mais on restait Lecter toute sa vie. C'était un état que choisissaient des laïcs, au fond, parce qu'ils n'étaient pas prêtres, ils étaient laïcs, et notre Saint Viateur est donc un laïc qui l'est demeuré jusqu'à sa mort, même s'il a fait finalement des vœux religieux, car vous savez que les frères, comme les frères, je vous parlerai d'un saint frère dans deux jours, des écoles chrétiennes, mais c'est un laïc, les frères sont des laïcs, ne ce sont pas des clercs, ce sont nos frères laïcs, on n'y pense pas assez. Alors il y avait des vieillards, aussi bien que des jeunes gens, qui étaient contents d'être lecteurs. La cérémonie avait lieu en présence de l'assemblée des chrétiens. Et puis l'évêque, après avoir interrogé donc celui qui allait ordonner lecteur sur sa foi, ses connaissances doctrinales évidemment, ben il lui recommandait de lire, écoutez bien ça, d'une voix claire et distincte, et de profiter, pour régler sa conduite personnelle, de ce que lui-même annonçait aux fidèles. Donc le lecteur doit conformer sa vie à ce qui est lu et proclamé. Tout un programme pour nos lecteurs dans nos paroisses. Puis, l'évêque remettait, ou bien lui faisait toucher le lectionnaire. Une fois admis au rang de lecteur, ben Viateur a passé définitivement au service de l'Église, puis a commencé sa vie à Lyon comme ça. Alors, quelles étaient les occupations journalières de Viateur? Mais de toute évidence, il remplit auprès de son évêque, on peut dire, le rôle de secrétaire pour les actes privés publics. C'est un jeune, tout jeune, hein? Et c'était là une des fonctions ordinaires du lecteur, ça. Et le bréviaire de Lyon, qui parle de Saint-Just, on a ce vieux texte, appelle Viateur son lecteur. Donc on est sûr de ça aussi. Il ajoute une phrase révélatrice sur les relations des deux saints, il dit « Viateur fut grandement aimé de Saint-Just, son évêque, à cause de ses éminentes vertus. » De la cathédrale de Lyon, la messe dans la cathédrale, c'est la messe célébrée tous les matins. Viateur y participait comme lecteur. Il assistait aussi à tous les offices. Il y avait, au IVe siècle, beaucoup de catéchumènes qui aspiraient à recevoir le baptême. Et le lecteur avait charge de les y préparer. Et dans les instructions qu'il leur donnait, bien Viateur, évidemment, s'attaquait, selon l'usage et les nécessités du temps, là, à démontrer l'absurdité de la mythologie païenne et du culte des idoles, comme il faudrait aujourd'hui que quelqu'un qui prépare nos jeunes, nos adultes au baptême, leur montrer l'absurdité de toutes sortes de cultes païens qui se propagent ici, d'une astrologie intempestive à toutes sortes de religions qui n'ont plus de sens, vraiment. Pas toutes, mais certaines n'ont vraiment pas de sens. À cela, il ajoutait l'enseignement des préceptes du décalogue et de l'évangile. Il enseignait les dogmes, la morale de l'Église catholique. Suivant la capacité intellectuelle de ses auditeurs, il s'adaptait. On dit que Saint Viateur avait un don pour ça. Et puis quand il les estimait suffisamment instruits, mais il les présentait à l'évêque ou au prêtre. Une fois jugé digne du baptême, il se montrait désireux de le recevoir. Les catéchumènes passaient dans la classe qu'on appelle les élus, puis on leur administrait ça quand, vous le savez, dans la nuit qui précédait la grande fête de Pâques. Or là, à l'automne de 381, il y a eu un concile, le concile d'Aquilée. Et puis, on a délégué l'évêque de Lyon, Eustus, qui a prononcé contre les Ariens l'anathème répété par tous les autres évêques, peut-être suivi de la déportation des hérétiques. Et après son retour, il allait se produire un incident tragique, qui devait changer l'orientation de sa vie, puis entraîner Viateur lui-même vers une destinée tout à fait nouvelle. Dans un accès de folie, un habitant de Lyon s'était précipité dans la rue avec une épée à la main. Alors là, il blesse, puis il tue plusieurs passants. Ça ressemble à nos fous qui peuvent tirer sur la foule. Hein? Mais voilà que la foule, indignée, s'attroupe et poursuit le malheureux, et celui-ci se défend avec succès. Puis, il reprend ses sens un peu, il se sauve dans une église. Or, les églises, déjà à cette époque-là, jouissaient du droit d'asile. Hein, la plupart d'entre vous, vous connaissez ça, le droit d'asile pour les églises. Car ceux qui s'y réfugiaient dans une église se trouvaient à l'abri de toute contrainte. Ils pouvaient rester là aussi longtemps qu'ils voulaient. Encore fallait-il qu'ils puissent se nourrir, hein? Et le respect de cette église où il était réfugié a arrêté la foule en délire. Mais l'exaspération a grandi. Ils ont menacé de mettre le feu à l'église. Et là, l'évêque Justus a couru pour défendre le privilège du sanctuaire, le privilège, le droit d'asile. Il a voulu calmer les assaillants. Et pour contenter la foule, sans violer le droit d'asile, ben, il a demandé, puis il a obtenu de l'un des premiers magistrats de la ville la promesse ou la foi du serment qu'on ferait aucun mal à ce pauvre fou malade. Alors, il le livre alors, on pourrait conduire puis garder en prison, mais la foule, qui est une populace enfin, se saisit du malheureux. On le traîne dans la rue, finalement, le massacre sans pitié. Alors, du fait de ce meurtre, c'était terrible pour cet évêque doux, modeste, un peu timide. C'était pas imputable à l'évêque, mais bien à cette population idiote. Mais l'évêque en aurait senti le coup. Il était innocent, mais il ne pouvait pas se pardonner qu'un tel malheur ait été fait à la suite de cette libération qu'il avait faite de cet homme. Il a décidé de se retirer dans la solitude pour y faire pénitence. C'est dans la conception du temps, dans la conception de l'époque. Alors, il y avait probablement une cause plus profonde, parce que Justus était un peu comme le cardinal Léger dans un sens. Hein, il était un homme de prière, de mortification, et peut-être que le désert l'attirait depuis longtemps. Quand est survenu cet accident, puis il avait accepté la charge épiscopale par désir de sauver des âmes, mais âgé de 75 ans, il jugeait que il avait le droit de garder ses dernières années pour se préparer à la mort dans un monastère. Et le martyrologe romain nous déclare qu'il a fait à son lecteur, son unique confident, il lui a dit ce qu'il ferait. Et puis il a décidé de s'acheminer vers Marseille et de s'embarquer pour l'Égypte. Mais Viateur ne l'a pas accompagné sur le champ. C'est Viateur qui est parti plus tard pour aller le rejoindre. Et il a fini par le rejoindre à Marseille afin de l'accompagner en exil et d'aller vivre avec lui au désert. Si nous nous en tenons à la chronologie déjà proposée au début de l'émission, eh bien Viateur, qui est né en 360, avait alors, quand il s'est rendu à Marseille comme ça, là, 21 ans. C'est l'âge des beaux rêves pour un jeune. Et il a donc rejoint sur le littoral son père et bienfaiteur, l'évêque Justus, qui s'apprêtait à s'embarquer sur un des bateaux qui venait du port de Narbonne. C'était alors le principal port de la Gaule méditerranéenne, celle qui donne sur vraiment la Méditerranée. Et puis il faisait escale à Marseille, puis se dirigeait donc vers ce qu'on appelle l'Orient, c'est-à-dire vers les pays qu'on considérait comme bien lointains. L'évêque, nous dit un texte ancien, le reçut avec surprise. Il a même voulu le renvoyer à Lyon, son Viateur. Mais le jeune Viateur de 21 ans l'a supplié, s'est jeté à ses genoux. Il a obtenu à la fin la permission de le suivre. Et à partir de ce moment, ben, la vie des deux saints va se confondre en une seule. Plus que jamais, ils seront unis par le cœur. Et encore davantage par le même idéal dans le service de Dieu. Mais pourquoi ont-ils eu l'idée de s'en aller si loin, s'en aller en Égypte? De l'autre côté de la Méditerranée, et ce n'est pas à la porte. Ils étaient désireux tous les deux de garder l'incognito, surtout l'évêque. Ils ne voulaient pas s'introduire dans un monastère en Gaule parce qu'ils auraient été reconnus. Ils auraient pu aller au monastère de Ligugie, fondé par Saint-Martin dont il sera question le 11 novembre, ou dans le monastère de Marmoutier, près de Tours. Alors, ils auraient peut-être pu se rendre en Espagne, ou l'Italie, mais ça leur semblait trop près. Ils étaient épris d'une très haute sainteté. Ils voulaient rester absolument inconnus, pour éviter les moindres honneurs. Alors, Saint-Just et Saint-Viateur, car Just sera canonisé aussi, et Viateur ont préféré se diriger vers le pays qui possédait les plus belles écoles de perfection. L'Égypte. L'Égypte, dont il a été souvent question à Radio-Ville-Marie dans des séries de Robert Prudhomme sur les pères du désert, hein, c'était le berceau, l'Égypte, le berceau du monachisme. Une nouvelle terre sainte, quoi. Et en effet, ben, les solitudes là-bas, en Égypte, là, étaient très déjà illustres par la réputation universelle de ceux qu'on appelait les géants de l'ascèse qui les habitaient. Même, pensez-y, c'est étonnant, on a les documents, l'Europe entière parlait de leur vertu et du caractère merveilleux de leur vie, on racontait toutes sortes de choses qui souvent ne tenaient pas debout, on exagérait. Saint Athanase d'Alexandrie, le premier, Alexandrie, c'est en Égypte, mais sur la Méditerranée. D'une ville très importante à l'époque. Bien, cet Athanase d'Alexandrie, le premier, les avait révélés à l'Occident, d'abord par ses récits qui étaient puisés au cours de son exil dans ces régions-là. Puis il y avait eu aussi la fameuse vie de saint Antoine qui s'est répandue, c'était copiée, recopiée, répandue partout. C'est apparu, cette vie de saint Antoine, vers 356, et bientôt c'était vulgarisé dans le monde romain par deux traductions latines. Et un immense succès d'édification, d'entraînement. Alors, nos deux voyageurs ont choisi le désert de Cété. S-C-E accent aigu, T-E accent aigu. À cause de la perfection plus haute qu'on y pratiquait, puis des souffrances, des privations plus grandes qu'on y endurait aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce désert? Ben, on trouve dans un écrit assez récent une explication claire, je vous la lis. C'était une solitude immense, dénué de sentiers et de routes, où le voyageur risquait de s'égarer. C'est une terre ingrate, stérile. Un soleil brûlant sur la tête, un sable embrasé et mouvant sous les pieds, une eau rare, salée et fétide. Rien pour le plaisir des yeux. Seulement des plantes aquatiques et quelques bouquets de palmiers sur les bords d'un grand marécage. Et ce mince avantage, bien, il fallait le payer bien cher, car de la surface des marais s'élevaient des nuées de moucherons aux piqûres cuisantes, dit l'auteur. Et voilà l'affreuse solitude. L'esprit de pénitence conduisait des milliers de chrétiens qui aspiraient à une mort anticipée par amour de Jésus-Christ. Quelle spiritualité complètement ou presque différente de celle que nous avons aujourd'hui. Heureusement que notre spiritualité s'est transformée. Non pas qu'il faut rejeter l'ascèse et la pénitence, pas du tout. Il faut savoir se former le caractère, se discipliner et faire de nous-mêmes des êtres qui se tiennent debout. Mais imaginez, à la porte du monastère, se tenait un prêtre qui apostrophait les voyageurs et qui disait « Arrêtez, on entre ici, mais on n'en sort pas ». Disons que ces gens, à l'époque, étaient un peu trop sévères et interprétaient la spiritualité chrétienne d'une façon qui, pour ma part, me répugne un peu. On peut admirer le courage de ces gens-là, mais quand même. Alors, c'est là que vont frapper l'évêque Just, J-U-S-T, et Viateur, Saint Viateur, tout jeune. Ils se présentent comme deux simples chrétiens qui sont désireux de se livrer la pénitence. Ils veulent accepter aucun traitement de faveur, puis ils se gardent bien de dire leur nom puis leur titre, hein. Un évêque, un lecteur compétent. Alors aussi, ils ont été soumis à toutes sortes d'épreuves, et durant une semaine, bien, ils sont demeurés à la porte en attendant que le supérieur veuille bien les recevoir. Et au lieu de les encourager, on les envoyait auprès de moines qui exagéraient même les rigueurs de la discipline. Alors nos deux postulants, l'un très âgé, 75 ans, et l'autre 21 ans, continuent à solliciter leur admission, puis à la fin, L'abbé du monastère accède à leur demande, puis il leur fait ouvrir la porte du monastère, et tous deux y entrent pour n'en plus jamais sortir. Mais il y en a qui sortaient. Faites-vous-en pas. Viateur a donc eu la bonne fortune d'entrer à cette école très réputée du désert, au moment le plus favorable, c'est alors que le groupe d'ermites suit la conduite de son fondateur Saint-Macaire, et Saint-Macaire était à l'apogée de sa gloire et de sa sainteté. Donc, ils ont eu un très bon guide. Saint-Viateur s'est initié aux habitudes du désert, en même temps qu'à la doctrine, qui devait désormais régler toutes ses actions. Il a appris surtout le renoncement à sa volonté propre, ce qui n'est pas une mauvaise chose, et la parfaite soumission aux ordres de ses supérieurs, ce dont on ne parle presque plus aujourd'hui, mais qui devrait être reconsidéré, à mon avis. Parce que l'obéissance, une obéissance entière et aveugle, se présentait comme la première obligation des aspirants. Aujourd'hui, on demande une obéissance éclairée, où il y a possibilité, et c'est très intelligent, de discuter calmement de possibilité d'un autre ordre ou d'une autre possibilité d'orientation de sa vie. Et ça, c'était la première obligation des aspirants, cette obéissance. Et la règle y exerçait les novices là, de mille manières pour qu'ils deviennent très obéissants. Quand il a eu fini son noviciat, Saint-Viateur a été admis au sein de cette famille monastique. Hein, il y a eu la prise d'habit. On connaissait ça. Il y avait la prise d'habit à l'époque. Les gens croyaient, on dit ça des fois, qu'il n'y avait pas de prise d'habit, mais on a les textes comme quoi ils portaient des habits. Enfin, c'était l'élément essentiel de cette cérémonie d'introduction. Alors, des mains d'un ancien, le novice recevait ce nouveau costume, qui ressemblait beaucoup aux vêtements ordinaires. Mais ce rite avait pour complément la tonsure, oui, une tonsure qui ne laissait qu'une couronne de cheveux autour de la tête. C'était la tonsure qui venait enfin des anciens prêtres égyptiens de l'ancienne Égypte qui se tondaient la tête en signe de consécration. Cassien, dans ses institutions monastiques, nous a décrit le costume qui empruntait beaucoup aux souvenirs bibliques. Il dit que le moine portait une tunique ainsi qu'une ceinture destinée à ramener les plis autour des reins. En Égypte, la tunique était ordinairement de toile blanche, légère et assez courte, avec des manches, ne dépassant jamais les coudes. On y ajoutait une pièce de scapulaire, c'est-à-dire un morceau de tissu retombant en avant et en arrière, et laissant les bras en liberté de manière à faciliter le travail, comme on les porte à Saint-Benoît-du-Lac, ou à Rougemont, ou à Oka, chez les trappistes. Encore aujourd'hui, toujours ce costume. Et le solitaire ajoutait une coule ou un capuchon qui protégeait la tête et la nuque contre les ardeurs du soleil. Et dans la saison froide, il usait en guise de manteau, il avait une petite pèlerine, qui était appelée ma forte ou ma forte, qui couvrait le cou et les épaules. Il y avait aussi la mélotte, on parle encore même aujourd'hui de la mélotte, peut-être de peau, conservait suivant leurs poils, protégeait la partie supérieure du buste, mais on s'en servait guère qu'en voyage. Pour la marche, on s'appuyait ordinairement sur un bâton. Et la plupart des moines allaient pieds nus. Cependant, il y avait des aspérités sur le sol. Il y avait des variations de température, ça les obligeait souvent à chausser des sandales, heureusement, avec une courroie, quoi. Chaque ermite avait pour demeure une caverne, un rocher ou un abri naturel, qu'un jour suffisait à bâtir. C'était pas très riche, comme vous voyez. Et puis, par générosité, souvent, ils cédaient leur bâtiment à un nouveau frère. Tous les biens étaient considérés comme la propriété de Dieu. Et par conséquent, comme chose sacrée. Il y avait un économe, là, celui qui s'occupait de ce qui était possédé, se chargeait donc de l'administration générale. On l'appelait l'économe. Il devait être économe, c'est sûr. Et évidemment, ceux qui vivaient isolés, pouvaient, avec la permission, garder le fruit de leur travail, parce qu'on savait qu'ils devaient pourvoir personnellement leur subsistance. Mais la règle avait grand soin de sauvegarder avant tout l'esprit de pauvreté, c'était très important. Puis le régime alimentaire n'offrait pas des choses bien compliquées. Il y avait des jeûnes extraordinaires de plusieurs semaines à cette époque, pendant lesquelles les moines ne prenaient que de l'eau. La règle de Sété, qui était plus austère que celle de la Thébaïde, d'un autre désert voisin, permettait de manger tous les jours, mais une seule fois, et tout en restant sur son appétit. On mangeait à midi, les samedis, les dimanches, les jours de fête. On mangeait à 3 heures de l'après-midi, les jours ordinaires, puisque c'était le seul repas du jour. Au jour de jeûne, cet unique repas se prenait à la tombée de la nuit, encore plus tard, et les menus ne comportaient pas d'aliments cuits, sauf quand il y avait des solennités. C'était un certain régal que d'avoir des feuilles de poireaux hachées. Des feuilles de poireaux, c'est pas très bon, hein? C'est sec. Une sorte de chou sauvage aussi. Du sel frit, étrange, hein? Et des olives. Et de petits poissons salés, qu'on prenait dans le Nil. Un grand nombre de ces pénitents qui se contentaient de pain et d'eau. Et les ermites ne consacraient au sommeil que 3 ou 4 heures par nuit. Ils dormaient sur la terre nue ou sur une natte, quand ils ne contentaient pas de s'adosser simplement à la paroi de leur cellule. Et leur temps se passait au travail et à la prière. Jamais ils devaient rester oisifs. Mais ils utilisaient leurs mains pour faire différents objets aussi. Et puis, bien, les côtiers, l'économe se chargeaient d'aller vendre ça un peu plus loin en Égypte. Et les moines, qui avaient quelques instructions, s'appliquaient, eux, à copier des livres. Et Viateur, qui s'était entraîné à ça, et qui était lecteur à Lyon, ben, Saint Viateur n'a pas manqué d'apporter au désert le secours de sa compétence, puis de son dévouement. Mais toujours la prière accompagnait les occupations. Et Viateur, qui avait appris par cœur tout le psautier à l'école de Lyon, mais il n'y avait pas de peine à se conformer à cette pratique-là. Tous les moines, au moins ceux qui savaient lire, étaient soumis au chant des heures coloniales. Et on le sait, les solitaires de la Thébaïde, bien, étaient les premiers à réciter l'office, qui a donné naissance aux bréviaires telles qu'on le connaît aujourd'hui. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait toujours après 1700 ans. C'est touchant quand on y pense. Et c'est comme ça que se sont passées les années pour Saint-Just et Saint-Viateur. Saint-Viateur qui s'était volontairement soumis à cette discipline étonnante sans que personne n'avait l'idée dans le monastère qu'il y avait là un évêque et son lecteur. Ils étaient attirés par la curiosité, le désir de contempler les merveilles, parfois les gens, hein, les merveilles de la vie monastique. Parfois, ils avaient l'intention de s'y engager eux-mêmes, alors là, les voyageurs, les pèlerins affluaient de plus en plus vers ces solitudes d'Égypte. Et un jour, devant l'assemblée plénière, bien là, les moines ont vu un nouveau venu, un gallo-romain, qui était moine lui-même. Et puis, on le sait parce que dans le texte, c'est écrit qu'il était frère. Et, c'est-à-dire moine, il a reconnu au milieu du groupe l'évêque de Lyon, déguisé sous le froc des anachorètes. Et spontanément, il s'est prosterné à ses pieds, il a baisé ses mains, puis il ne pouvait pas contenir ses sentiments de profonde vénération. Alors, c'était un grand émoi dans l'église, et là, on a reconnu, finalement, que c'était un évêque et son lecteur. Et vous verrez tout à l'heure ce qui s'est passé après ce moment d'étonnement et d'émotion. Et alors donc, il y a eu un grand émoi dans l'église du monastère, tous les assistants se sont précipités auprès de leurs nouveaux confrères, puis ont voulu savoir la raison d'un pareil témoignage de respect puis d'honneur. Alors ce moine gallo-romain leur a répondu qu'il venait de reconnaître au milieu d'eux Justus, le saint évêque vénéré dans tout le pays des Gaules et dont Lyon pleure encore le mystérieux départ. Alors là, l'émotion succède à l'étonnement. Tous admirent l'humilité de cet homme de Dieu. Il s'excuse de n'avoir pas distingué et honoré comme il convenait le caractère épiscopal, on peut dire, de cet homme. Là, les anciens se confondent de l'avoir laissé dans la foule, parfois même au dernier rang. Puis, de même que Lyon avait admiré Viateur à cause de ses vertus précoces, les moines l'ont félicité d'être resté si fidèle à son évêque jusque dans la plus austère solitude. Et à partir de ce jour, si les deux saints furent entourés d'égards autant que le permettaient les usages du monastère, ils n'ont pas continué Autrement, leur vie de raison et de pénitence y sont restées comme ils étaient. Et la nouvelle de cette grande découverte n'a pas tardé à franchir la Méditerranée. C'est parvenu jusqu'à la ville de Lyon, puis là, les Lyonnais, en apprenant ça avec joie et surprise que leur évêque n'était pas mort et que leur viateur était toujours vivant, eh bien, et que tous deux se cachaient dans le fameux désert de Cété, mais il y a un prêtre lyonnais du nom d'Antiochus qui a décidé de consoler les fidèles de Lyon, puis a décidé, lui, de passer la mer, de se rendre en Égypte pour aller dire à Saint-Just et à Saint-Viateur tout l'amour, tous les regrets, puis les souhaits des fidèles, afin de les convaincre pour les ramener tous les deux, si possible, à Lyon. Et Antiochus, le prêtre, a usé de tous les moyens pour décider ce Saint-Évêque à revenir auprès de ses fidèles, et à reprendre le gouvernement de son église, restée sans pasteur. Ça rappelle le moment où le cardinal Léger est parti, puis qu'on est resté dans un moment où il n'y en a pas eu d'évêque pendant plusieurs mois. Et c'était des efforts inutiles. Saint-Just et Saint-Viateur avaient décidé de mourir au désert, lieu qui leur paraissait maintenant comme l'antichambre du ciel. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir dans un monastère quand on est fidèle à sa règle et à sa prière, à l'oraison et à la présence de Dieu dans un monastère. C'est un peu ce sentiment qui habite les moines et les moniales. Et d'autre part, mais le prêtre Antiochus a été tellement frappé de la hauteur puis de la sagesse de tout ce qu'il entendait qui sortait de leur bouche, et encore plus sans doute émerveillé par la perfection de leur vie, que lui-même s'est épris de ce genre de beauté, de belles choses. Il a résolu de demeurer en leur compagnie. Il y a séjourné, on le sait, jusqu'à la mort des deux saints. Mais cette mort est survenue assez rapidement. On fixe leur mort, selon les documents les plus anciens, en l'an 390. Les documents authentiques nous ont conservé quelques détails émouvants de leur mort. Accablé sous le poids des années, mais encore plus sous le fardeau de sa vie difficile, Saint-Just, l'évêque de 75 ans et plus, il va avoir 80, là, approchait du terme de son pèlerinage terrestre. Saint-Viateur, qui devait être rendu à 25 ans, redoublait à son égard tous les soins empressés qu'il lui avait accordés depuis son adolescence. Il était prévenant. Il n'enfreignait pas la règle du désert, la règle monastique, en faisant ça, parce que il y avait des points de la règle très importants, c'est qu'il fallait prendre soin des frères souffrants. En somme, on peut dire, comme un auteur, l'austérité laissait la place à la charité. Alors là, les chroniques de l'époque nous décrivent les religieux qui mouraient au désert. Ils étaient couchés sur une pauvre nappe. Ils étaient entourés de leurs frères qui priaient. Et c'est encore comme ça, j'ai vu, moi, le frère Hilaire mourir à Saint-Benoît-du-Lac. Les moines étaient autour de lui, même dans les corridors. Et c'est des moments très précieux, la mort d'un moine dans un monastère, dans bien des occasions. Alors, on imagine... Saint-Just dans les bras de Saint-Viateur, puis qui glisse lentement vers son agonie. Et sur le point de devenir orphelin, Saint-Viateur laisse échapper quelques paroles qui sont rapportées. « Père, pourquoi m'abandonner? À qui me confier désormais? » Et Saint-Just lui répond « Mon fils, ne vous inquiétez pas, comme si toute consolation vous était enlevée. Vous ne tarderez pas à me suivre où je vais. » Alors le vieillard, Saint-Just, s'est endormi dans le Seigneur. C'était sa fête, il y a quelques jours, le 14 octobre. Puis une fois encore, Saint-Viateur baise les mains de cet évêque, qui tant de fois l'ont béni, l'ont communié, des mains d'évêque, des mains de prêtre. Ce sont des mains par lesquelles le Christ nous est donné. Les sacrements nous sont donnés. Et puis, il lui baise aussi, il embrasse le front, où l'esprit sagesse a régné si longtemps. Et puis, il touche un peu à ses lèvres, qui lui avait enseigné à garder les commandements, puis à suivre les conseils évangéliques. Puis ensuite, avec l'aide de ses frères, bien, il ensevelit le corps de ce saint qui vient de mourir. Il songe plus qu'à aller le rejoindre. Mais il ne faut pas oublier la prophétie de Saint-Just, qui lui a dit que ce ne serait pas long. Et s'il faut en croire Petrus de Notabilus, un historien de cette époque, Saint-Viateur est mort 7 jours après le décès de son maître, c'est-à-dire le 21 octobre, c'est aujourd'hui le 21 octobre, de l'an 390. Il y a donc 1600 ans. Ce fut, comme on a coutume de dire, dans le langage traditionnel, sa naissance au ciel, la grande naissance. Il y a la naissance, notre naissance comme enfant. Et ce moment de cette grande naissance où nous naissons au monde de l'invisible et surtout à la présence ineffable de Dieu, à la contemplation de Dieu. Juste et Viateur ont été ensevelis côte à côte. Les moines n'ont pas voulu les séparer dans leur tombe. Le désert de Cété n'a pas tardé longtemps à rendre à la vénération des fidèles tous les reliques qu'ils avaient, parce que de retour à Lyon, le moine Antiochus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le prêtre qui venait de Lyon, a fait connaître à ses compatriotes, vous savez, lui est sorti du monastère, est allé à Lyon, il a raconté ce qui s'est passé, il leur a parlé de la sainteté de leur vie, puis des grandes vertus qu'ils avaient pratiquées dans le désert d'Égypte. Alors là, le clergé de Lyon, puis les citoyens, les Lyonnais, ont élevé la voix, puis ils ont réclamé les ossements pour en donner un culte spécial. Et malgré les sérieuses difficultés que présentait toute cette entreprise, bien, un groupe de Lyonnais qui sont partis pour réclamer aux moines de Cété les corps de ceux qu'ils gardaient comme des saints. Ils les ont rapportés. Ils ont été exhumés, donc transportés soigneusement à Lyon, où le peuple les a reçus avec de grands honneurs à la date du 4 août de l'année qui a suivi leur mort, en 391. On a établi une fête, ils ont été placés sur l'autel d'une église de Saint-Eustache, de l'église Saint-Étienne plutôt, mais sur l'autel de Saint-Eustache, c'était la nouvelle cathédrale qui avait été érigée à Lyon. Et puis finalement, trêve de détails, le temple dans lequel ils ont été ensevelis définitivement a pris le nom de Église de Saint-Just. Mais l'Église Saint-Just a souffert de la fureur des protestants au moment des guerres de religion. Vous savez, les terribles guerres de religion du XVIe siècle. Et là, dans la nuit du 29 avril 1562, l'Église de Saint-Just a été assaillie par les protestants, puis ils ont commis des ravages terribles dans l'église, et puis ils ont jeté les reliques. Mais on a sauvé quelques éléments de ces reliques. On a sauvé le crâne de Saint-Just, puis une partie du corps de Saint-Viateur. Et quand l'église a été reconstruite, on les exposait à la vénération des fidèles, mais encore durant la Révolution, on a perdu les reliques en 1793.